De la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Nous continuerons, dit-elle, à suivre les élections et nous attendons qu'elles soient conduites d'une manière libre, juste, transparente et crédible. Voilà une déclaration en provenance des États-Unis qui signe comme un avertissement, alors que Bolsonaro a déjà prévenu que s'il ne l'emporte pas, eh bien, il remettrait en cause le résultat de l'élection et la fiabilité des urnes électroniques, hein, puisque c'est aujourd'hui le mode de vote au Brésil, vote qui est d'ailleurs obligatoire. Erika Campello, quand on voit ça, on se dit que c'est écrit d'avance, que si Bolsonaro perd, eh bien, il risque d'avoir des violences du type de ce qu'on a connu à Washington avec la prise du Capitole par les proches de Donald Trump.
Tout à fait, parce que aujourd'hui, Bolsonaro, il attise ses chaos parce que c'est là qu'il va assurer sa survie politique, sa survie judiciaire, parce que lui et ses enfants sont impliqués dans plusieurs cas de corruption. Mmh. Donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas enquêter parce qu'il a l'immunité parlementaire en tant que président de la République. Donc, ce chaos est attisé par Bolsonaro. Et la question du Capitole à la tropicale, à la brésilienne, mmh, est bien probable. Bolsonaro, il y a avec lui énormément de partisans. Et ces partisans sont radicalisés, ils sont armés. Et ça, c'est un grand danger pour la démocratie brésilienne.
Mais Lamia, voilà, moi, je vous pose la même question quand même sur Lula. S'il perd, est-ce que ses partisans vont accepter ce verdict des urnes, même si ce n'est pas le plus probable. Mais tout de même, on sent qu'il y a une radicalisation quand même.
Il y a une radicalisation, mais quand même une grande majorité des Brésiliens qui vont voter Lula. Là, tous les sondages le donnent. La question, c'est est-ce que ça sera au premier tour ou au second tour. Donc, on imagine difficilement qu'il puisse perdre de façon régulière. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde espère, en fait, enfin, beaucoup de Brésiliens, y compris des gens qui ne sont pas du tout de gauche, y compris des gens qui ont voté contre le Parti des Travailleurs, donc le parti de Lula, en 2018, veulent maintenant que ce soit Lula, parce que plus que la gauche, plus qu'autre chose, aujourd'hui, il veut incarner le retour à la normalité, le retour à la démocratie, le fait qu'effectivement, on ait moins peur. Comme je vous disais, 7 Brésiliens sur 10 ont peur aujourd'hui de dire pour qui ils veulent voter.
Parce qu'ils ont peur d'être tués.
Ils ont peur d'être tués, mais ils ont peur de tout. Ils ont peur. Il y a une scène, une anecdote qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. On voit un chef d'entreprise qui apporte d'habitude à manger dans une région pauvre. Et il se filme, il fait un selfie, il demande à une femme pauvre pour qui tu votes. Et elle lui dit Lula. Elle lui dit très bien, à partir de maintenant, tu n'auras plus à manger. Et elle est incrédule. Et l'image fait le tour du Brésil. Et ça incarne cette peur. Donc, ce qui fait qu'on a moins de campagnes, on a moins de candidats. Et éventuellement, on peut avoir aussi moins de gens qui veulent voter. Parce que le vote est obligatoire, mais pas après 70 ans.
Après 70 ans. De 18 à 110 ans, voilà. C'est ça. François-Michel Letourneau, Lamia Boualalou évoquait le fait que la victoire de Lula lui semblait en tout cas probable. Reste à savoir si elle aura lieu au premier ou au second tour, ce que vous disiez à l'instant. Ça change évidemment les choses pour ce qui est du climat politique dans le pays et de l'éventuelle contestation.
Ça risque de changer les choses parce que si c'est un raz-de-marée en faveur de Lula, il sera très difficile de contester ce qui se passe, y compris d'ailleurs, je dirais, dans la question de la maîtrise de la rue. S'il y a un gros raz-de-marée au premier tour en faveur de Lula et qui a une réaction de l'autre côté, on peut imaginer qu'il y aurait des manifestations monstres qui suivraient immédiatement. Il serait très difficile d'essayer de retourner ça. Je pense qu'il y a c'est pas tellement la rue, à mon avis, qui est à redouter dans un éventuel putsch en faveur de Bolsonaro. La question, c'est un petit peu le rôle de l'armée brésilienne. Est-ce qu'elle pourrait être tentée par une aventure à la 64 en essayant d'imposer absolument
le coup d'État militaire de 1964
ou est-ce qu'elle va faire comme elle a fait, je le rappelle quand même, déjà en 2002, où Lula a été élu, ce qui n'avait pas du tout plu à cette partie de l'opinion publique, et elle a accepté, et finalement, ça ne s'est pas si mal passé.
Non, pas dans un premier temps. L'armée brésilienne, aujourd'hui, actuellement, n'a aucun intérêt de se mêler de ce qui se passe. Actuellement. Mais, ceci dit, si jamais il y a vraiment des violences très graves, si la démocratie est menacée, Bolsonaro peut entraîner l'armée s'il y a une révolte populaire par les partisans de Bolsonaro, l'armée peut être entraînée là-dedans. Donc ça, ça peut être dangereux. Mais aujourd'hui, actuellement, l'armée ne va pas faire un coup d'État militaire classique comme en 64.
C'est-à-dire que plus que l'armée, le danger aujourd'hui au Brésil sont les polices militaires, en fait. Ce qui, là, on peut avoir dans des États, parce que c'est un pays fédéral, il faut s'en souvenir. des aventures éventuelles. Et je voulais rapidement sur le 2 octobre, l'enjeu, il est important du premier tour, pas seulement,
premier tour
pas seulement sur le raz-de-marée ou non, c'est qu'on vote pour 5 autres, il y a 5 votes en fait.
Vote pour les députés, les sénateurs, les gouverneurs.
Les députés, les sénateurs, les gouverneurs, les députés d'État. Et donc le président. Si beaucoup de députés gagnent, ils vont dire à Bolsonaro, tu es gentil, mais on ne va pas remettre en cause l'élection.
Parce que si Bolsonaro remet en cause le scrutin, c'est tous les scrutins en l'occurrence.
Ou le système électronique marche ou il ne marche pas.
Oui. François-Michel Letourneau, voilà. Alors vous évoquez le fait que Lula semble, en tout cas, alors qu'il est favori du scrutin, hein, c'est le cas dans les sondages, mais Lula c'est un survivant, un rescapé, on le croyait définitivement perdu, il y a un certain âge déjà, 76 ans, et puis surtout, il a passé 580 jours en prison. Comment est-ce qu'il a fait pour rebondir et pour être blanchi aussi par la justice? Pourquoi a-t-il été si vite blanchi de ces lourdes accusations de corruption?
Alors là, je dirais qu'il y a c'est une interprétation qui va être un petit peu tendancieuse en fonction de où on se situe sur l'échiquier politique. Si vous êtes à droite, vous allez dire qu'on l'a ressorti de la naphtaline et de la prison pour être opposé à Bolsonaro parce que c'était la seule figure qui permettait de s'opposer à un leader charismatique. Et si vous êtes à gauche, vous allez dire qu'une injustice historique a été corrigée. Voilà, donc entre les deux. Mais ce qui est clair, c'est que le jugement est tombé à point nommé. De même qu'il avait été tombé à point nommé dans l'autre sens pour l'empêcher de concourir en 2018, il faut le dire aussi. Ce qui me paraît surtout important, c'est que ça montre qu'il y a un problème de renouvellement dans la vie politique brésilienne. Effectivement, Lula est âgé, c'est difficile qu'il fasse un deuxième mandat. Et qui y a derrière Lula? Quel est le deuxième couteau qui arrive? Quel est le vice, etc. On s'aperçoit que c'est quand même beaucoup le tout sauf Bolsonaro. Donc il y a une grande alliance qui s'est mise en place autour de Lula, qui risque de l'emporter au premier tour. Mais toute la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Comment Lula va-t-il composer son gouvernement? Et là, on retombe sur les autres élections. Ça va dépendre aussi de quel congrès aura Lula. Et probablement, le PT, son parti, sera très minoritaire dans ce congrès. Il va falloir construire une alliance et ça va être difficile.
Est-ce que ce n'est pas une élection, un risque d'élection par défaut, du coup, pour Lula?
Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est une élection atypique au Brésil parce que c'est vraiment, il y a un front populaire démocratique contre la barbarie. Bolsonaro représente la barbarie. Si on prend tous ces...
Il a quand même beaucoup de soutien encore dans l'opinion pour un barbare.
Il a 30% de soutien dans l'opinion. C'est gigantesque, certes, mais c'est aussi malheureusement le contexte historique du Brésil qui a amené Bolsonaro au pouvoir.
Est-ce qu'il a encore une chance de l'emporter?
Elle est moindre, mais elle existe. C'est une élection démocratique.
Mm-hmm. On entend dire que si on avait encore 2 semaines de campagne supplémentaire, la tendance pourrait s'inverser.
Je ne crois pas, parce que Bolsonaro, il a une dynamique aussi en faveur de Lula.
Non, a priori, au contraire. En fait, oui. Pour l'instant, les sondages vont plutôt dans le sens d'un accroissement de la différence entre les deux. En fait.
Alors, en tout cas, Jair Bolsonaro a encore des soutiens assez puissants dans l'opinion, et notamment celui d'une communauté, un courant chrétien particulièrement fervent et conservateur, les évangéliques.
Oui, il y a une gigantesque vague évangélique qui s'est déroulée au Brésil. Ça a commencé dans les années 70. Pour vraiment bien comprendre l'ampleur de ce phénomène, c'est un sujet absolument majeur. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, plus de 90% des Brésiliens se disaient catholiques. Aujourd'hui, les évangéliques représentent 30% de la population brésilienne. Les démographes prévoient même que d'ici 2030, donc très bientôt, le pays comptera autant de catholiques que d'évangéliques. C'est une transformation extrêmement rapide pour un pays aussi grand que le Brésil. Ce courant religieux, il est aussi, on le voit bien, très bien représenté politiquement. Il y a un groupe de députés évangéliques transpartisans qui constituent environ 1/5 du Congrès. Il y a plus de députés évangéliques que de femmes. Sur le plan des idées, ils sont très, très, très conservateurs, notamment sur les questions qui sont liées au genre et à la sexualité. Ils sont aussi franchement hostile à la gauche. Il faut dire enfin que Bolsonaro leur doit vraiment beaucoup. Lui-même a épousé une évangélique. Il a été baptisé par un pasteur évangélique en Israël. Et à la dernière élection, 7 évangéliques sur 10 ont voté pour lui.
Ouais. A monté une campagne dans laquelle il ne vexe personne.
Oui, justement, j'allais vous dire ça.
C'est-à-dire, c'est ça qui marche.
Et notamment les milieux économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leurs différences économiques sont moins fortes aujourd'hui entre les deux candidats qu'elles le furent par le passé.
Oui, mais sur le plan économique, de toute manière, Lula a toujours été un pragmatique. Et je reviens à son élection en 2002, où il est élu sur un programme qui était quand même très à gauche et qu'il a jeté aux orties au premier jour de son gouvernement parce qu'il y avait une crise économique majeure. Donc à l'époque, ce n'est pas la violence politique qui avait monté, mais c'était la tension économique autour du Brésil avec des taux d'intérêt qui s'étaient envolés. Et donc Lula a fini par dire « Non, mais je vais gouverner ce pays avec une politique économique modérée en essayant de faire ce que je peux pour le peuple, mais en même temps en étant réaliste sur le plan économique, et ça a très bien marché pendant 8 ans.
Il y a une vraie différence de fond d'ailleurs entre les deux programmes sur le plan économique, entre le programme des deux candidats. Il y a des vraies différences de fond.
Il y a une différence de fond idéologique et d'orientation, mais surtout, je pense qu'il y a une différence entre le n'importe quoi qui a caractérisé le gouvernement Bolsonaro dans tous les domaines, y compris le domaine économique, et un gouvernement Lula qui serait probablement plus réaliste.
Mais Bolsonaro qui est venu en aide là, aux classes les plus populaires, là, en versant à nouveau des aides ces derniers mois.
Oui, en fait, seulement sur les 3 derniers mois, donc c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, c'est-à-dire il leur a donné l'équivalent de deux salaires minimum. D'un demi-salaire minimum, pardon, mais juste les 3 derniers mois avant l'élection. Et ça ne marche pas du tout, d'ailleurs, dans les sondages. On voit qu'ils ont les mêmes intentions de vote avant ou après. Ce qu'il faut rappeler d'un point de vue économique, c'est que pour gagner, Lula fait un ticket avec un vice-président qui est un personnage de droite, qu'il a d'ailleurs battu en 2006. Donc évidemment, ce ne sera pas la révolution, c'est sûr.
Je suis un peu surpris par ce soutien, parce que Bolsonaro a toujours été le candidat des milieux d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 4 ans de gouvernement de Bolsonaro. Il y a eu une pandémie au Brésil. On a eu 700 000 morts du Covid. Un mépris du président de la République qui était anti-vaccin. Et imaginez, au Brésil, 700 000 personnes, c'est comme si la population de la ville de Lyon et Annecy disparaissait avec la crise pandémique.
Donc ça, c'était mauvais en quelque sorte pour les affaires. C'est pour ça que les milieux d'affaires...
Oui, et aussi... Il a un...
trouve Lula plus stable, c'est ça?
Tout à fait. Il a un front républicain qui a été constitué, qui va de la droite conservatrice jusqu'à l'extrême gauche, qui aujourd'hui soutiennent Lula. Ça, c'est très important.
François-Michel Le Tourneau.
Surtout que les milieux d'affaires ont été déçus. Parce qu'on leur avait vendu quelque chose, on leur avait vendu un pays qui allait glisser dans l'ultralibéralisme, mais en fait, Bolsonaro a été tellement incapable d'articuler ses forces au Congrès qu'il a été incapable de faire toutes les grandes réformes qu'il avait promises au milieu d'affaires. Donc finalement, je pense que leur raisonnement, c'est Lula, on a déjà testé. Ça a été quand même la grande période de croissance économique du Brésil, donc ça a plutôt bien marché. Et face à quelqu'un qui en face promet plein de choses mais ne délivre rien, c'est pas très intéressant.
Et on se souvient qu'il y a 4 ans, Bolsonaro avait été aussi élu sur un autre thème, c'était celui de l'explosion de l'insécurité et de la criminalité. Il y avait la corruption, la dénonciation de la corruption, et puis la criminalité. Est-ce que de ce point de vue-là, aujourd'hui, il a fait quelque chose depuis 4 ans, ou est-ce que la situation a continué d'empirer?
Non, en fait, il y a une impression de violence qui a augmenté, même si en vérité la violence n'a pas véritablement augmenté, pour plein de raisons démographiques.
La circulation des armes a considérablement augmenté.
La circulation des armes a augmenté, et puis le fait que quand on pose des questions, les gens ont plus peur de sortir dans la rue, ils ont plus peur de se faire agresser, même si objectivement il n'y a pas plus
de risque. Le sentiment d'insécurité
est plus fort. Le sentiment d'insécurité a énormément augmenté. Mais sur les questions économiques, je voudrais revenir sur le rôle du Brésil à l'étranger. C'est-à-dire le Brésil avait une grande image à l'étranger à la fin des deux mandats de Lula et...
Moins à l'issue de celui de Dilma Rousseff, quand même.
Mais quand même, là, on a jamais eu une image du pays aussi dramatiquement dégradée. C'est-à-dire, maintenant, on le voit intervenir à Genève pour réunir des pays, pour faire quelque chose contre l'avortement, enfin des choses très, très, très bas de gamme.
Oui, mais vous parlez de l'impact de cette élection. Il sera, bien sûr, au niveau mondial, parce qu'on parle environnement aussi. Quand on pense Brésil, on parle de la forêt amazonienne. Elle compte, c'est 63% de la forêt amazonienne qui est au Brésil, Erika Campello. En même temps, on sent que cette thématique-là, elle ne s'est pas vraiment introduite dans la campagne, elle ne s'est pas imposée dans la campagne, plus que ça, même du côté de Lula.
Mais oui, bien sûr, parce que Lula, avec son front républicain, il fait énormément d'alliances pour pouvoir gagner ces élections. Oui,
donc il faut vexer personne non plus du côté de l'agroalimentaire.
Ceci dit, ça dépend, parce que la majorité du secteur agroalimentaire soutiennent Bolsonaro. Et pour eux, et Bolsonaro l'a dit, ça n'a jamais été question dans le gouvernement de Bolsonaro de préserver la forêt. Au contraire, ça a toujours été d'exploiter cette forêt, c'est-à-dire là-bas. Mettre du bétail et aussi planter du soja. Soja qui alimente les bétails européennes et françaises. Donc il faut se rappeler de ça. Donc évidemment que la question environnementale, elle est importante dans cette élection. Et je tiens à dire quelque chose de très important. Il a un record battu actuellement pour les candidats autochtones au Congrès national brésilien et aux chambres des assemblées législatives d'État. Ça, c'est très important.